J'ai consacré ma vie à la recherche de la vérité. L'observation des enfants m'a permis de scruter la nature humaine à son origine, à la fois en Orient et en Occident, et malgré 40 années de travail, l'enfance m'apparaît toujours comme une source intarissable de révélations, et dirais-je même d'espérance. Les enfants sont les créateurs de l'homme qu'ils construisent. Ils prennent et assimilent la langue, la religion, les coutumes et les caractéristiques non seulement de l'ethnie et de la nation à laquelle ils appartiennent, mais aussi de la région délimitée dans laquelle ils grandissent. L'enfant se développe avec ce qu'il trouve autour de lui. Si ce qui est à sa disposition est pauvre, son œuvre sera pauvre. Dans la civilisation actuelle, l'enfant en est réduit au glanage. L'enfant est le citoyen oublié. Et pourtant, si les hommes d'État et les éducateurs réalisaient un jour la force vertigineuse que représente en bien ou en mal l'enfance, je crois qu'ils lui accorderaient la priorité sur toutes les autres questions.
Maria Montessori, l'insubordonnée de l'éducation. Une grande traversée de Johanna Bedeau et Marie-Laure Ciboulet.
Elle était persuadée que l'enfant avait un message pour l'humanité. Il y a un côté un peu messianique chez elle. Voilà, l'enfant, il apporte quelque chose à l'humanité. Et sans doute, elle considérait que l'enfant a des choses à dire à l'adulte. Et que peut-être, pour pouvoir aussi se réformer soi-même, pour avancer, pour cheminer dans notre chemin de vie, eh bien, l'enfant a une place très importante, pour peu qu'on l'écoute.
Son idée, c'était de laisser une trace dans le monde, de changer le monde. Moi, je pense toujours que si elle avait été un homme à l'époque, elle aurait été une homme politique, elle aurait fait quelque chose d'incroyablement puissant dans le monde parce qu'elle avait cette idée de changer le monde.
C'était sans doute une personne à multifacettes. Elle s'est aussi beaucoup protégée, elle a aussi beaucoup protégé sa vie privée, et elle a peut-être aussi beaucoup protégé ses opinions personnelles, et on ne sait pas trop, en réalité, qui elle était. Et il y a quelque chose de très pratique, c'est que ça permet énormément de projection.
Quand on parle de bambino, nel senso che io dico, bisogna prendere veramente il bambino piccolo.
Elle a lutté pour les droits de l'enfant, mais elle a aussi lutté pour le féminisme, pour les droits de la femme, ensuite les droits d'ouvrier. Enfin, voilà, on parle toujours de Montessori et de l'enfant, mais en fait, elle défendait tous les opprimés. C'est une personne qui a dû beaucoup lutter pour trouver sa place dans un monde pas facile. C'est une femme dans un monde d'hommes. Et ça participe sans doute de la machine Montessori, c'est-à-dire de la machine de guerre là, qui fait que voilà, il y a une méthode, il y a un cours, après il y a un deuxième cours international, puis après il y a une tournée internationale aux États-Unis. On retrouve des articles de presse dans les années 1910 où il y a quand même des contemporains qui disent mais c'est fou cette folie autour de Maria Montessori, mais qu'est-ce que c'est que cette folie ?
Io mi immagino una donna forte, molto forte, di una spiritualità profonda.
Je me figure une femme forte, très forte, d'une spiritualité profonde que le philosophe Henri Bergson aurait défini à juste titre de spiritualité agissante. Une personne capable d'entraîner dans ses idées et dans son engagement tout ce qu'elle connaissait.
È divenuto però più personale, più intimo e anche più elevato.
Et lorsque son objectif est devenu plus personnel, plus intime et même plus élevé, c'est-à-dire lorsqu'elle est passée de l'éducation des handicapés à l'éducation de l'humanité, alors sa spiritualité se fait presque religieuse, bien que dans un sens laïque. On pourrait dire que la religiosité de la science dont s'habillait la médecine positiviste se transfère à ses idées pédagogiques, ou plutôt à sa grande idée pédagogique, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas le fils, mais le père de l'homme.
Premier épisode, un esprit libre à l'université.
Maria Montessori naît en 1870, et c'est pas tellement le lieu qui est important selon moi, mais c'est la date. Parce que cette année-là, en fait, dans l'histoire de l'Italie, c'est une année clé, en fait, parce que c'est l'unification de l'Italie qui se termine, non parce qu'il y a la brèche à Di Porta Pia.
Martine Gelsoul, chercheuse.
Maria Montessori naît dans une nation qui se construit, dans une nation qui, par rapport aux autres pays d'Europe, est un peu arriérée. Donc c'était vraiment un pays à construire. Enfin, c'était une société en ébullition.
Rome, sans doute, c'était la nouvelle capitale de l'Italie parce que le pays venait de naître. C'était pas la ville la plus excitante et moderne d'Europe. Peut-être Milano était un peu plus riche. C'était en fait, Maria Montessori grandit dans une ville qui sort du Moyen-Âge.
Cristina De Stefano, écrivaine.
C'est une ville qui sort du pouvoir des papes, qui est absolument sous la coupe de la religion, et où il y a quand même c'est un moment très excitant parce qu'il y a un moment de renouveau. Il y a le roi qui arrive du nord du pays, il y a une idée de renouveler la capitale, il y a les socialistes qui s'imposent. Et Maria Montessori grandit dans cette clash, on pourrait dire, entre le vieux et le nouveau. Mais je pense que sa grande chance n'a pas été d'être à Rome, mais d'avoir cette famille-là.
Una famiglia piccolo borghese, ma che ha aspirazioni.
Paola Trabalzini, professeur d'histoire de la pédagogie.
Verso una elevazione sia.
C'est une famille de la petite bourgeoisie, mais qui aspire à s'élever aussi bien socialement que culturellement.
Nell'educazione e nell'istruzione di Maria Montessori.
C'est pour cela que la famille investira dans l'éducation et dans l'instruction de Maria Montessori.
Di studiare.
Maria Montessori est une enfant qui a la possibilité d'étudier dans une Italie, nous parlons de l'Italie des années 1870, où le taux d'analphabétisme était très haut. D'après le recensement de 1871 dans les Marches, le taux d'analphabétisme se situe aux environs de
85%.
Son père est un employé du ministère de l'économie, mais c'est un ancien militaire, donc il a participé à la conquête avec Garibaldi. Donc c'est une éducation stricte. Mais sa maman, Renilde Montessori, Renilde Stoppani, son nom de jeune fille, était une femme très cultivée, autodidacte, qui aimait beaucoup lire et donc qui était aussi très ambitieuse. Mais à l'époque, une femme mariée ne pouvait pas travailler. Et donc on a vraiment l'impression qu'elle a un peu transposé cette ambition sur sa fille, en fait.
La grande chance de Maria était d'être la fille unique de cette famille. Et il y a ce cahier très touchant de son père. Quand elle est petite, il écrit tout dans ce cahier très beau, qui est déjà un regard d'attention sur l'enfant. C'est un enfant qui est chéri, qui est valorisé par sa famille. Et je pense que ça a pesé beaucoup. Elle est arrivée à l'école, elle est arrivée dans la vie très sûre d'elle. Elle avait eu des parents qui lui ont transmis tout de suite l'idée qu'elle avait des potentiels infinis.
Dans ce cahier, qu'est-ce qu'il raconte? Le quotidien de sa fille?
Si, le quotidien, les premiers mots, c'est ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, on ne faisait pas. C'est vraiment le cahier de ma fille, tenu par son père. Je trouve ça très touchant. C'était un père qui lui chantait les chansons, qui l'endormait, quelque chose qui n'était pas du tout typique à l'époque. Et on lit, c'est voilà, les premiers pas, les premiers mots, les maladies.
Mon doux papa chéri, tu as fait tellement de choses pour moi depuis le temps où tu me bordais, petite fille, en me berçant et me chantant des berceuses. Et quand j'étais plus âgée, tu m'as soutenue en me donnant tout ce que tu avais et en sacrifiant ta vie pour me permettre de continuer à étudier.
À l'époque, un enfant sur deux mourait avant 5 ans. Et toutes les maladies font trembler la famille, évidemment, parce que c'était difficile. Et ça, c'est un cahier qui est fait de dizaines de pages, mais disons que ça nous donne voilà, une porte d'entrée sur cette petite famille bourgeoise qui a ce seul enfant qui est le centre de tout.
Tu ne demandais rien d'autre que mon bonheur. Très cher papa, avec tes cheveux blancs et ton cœur si généreux, honnête et loyal, j'espère que je t'ai donné des compensations, des satisfactions et du réconfort. Ta petite fille.
Et je pense qu'elle a porté ça dans sa vie. Elle était convaincue d'être destinée à quelque chose de grand. Je pense que ça vient de la famille.
L'école élémentaire avait une durée de 5 ans. Montessori l'a fait en 8 ans en raison de problèmes de santé. Elle est contrainte, par exemple, de redoubler la première année. Cet aspect est intéressant. Ce n'est pas une enfant prodige, ce n'est pas une enfant extraordinaire, c'est une enfant comme les autres. avec ses forces et ses fragilités.
Elle s'amusait beaucoup à écrire des histoires et elle avait vraiment un grand talent pour déclamer. Donc quand elle devait lire des textes ou quoi, ben, elle raconte que ses enseignantes appelaient les autres élèves qui venaient l'écouter. Ben, c'était une comédienne et donc elle faisait rire, pleurer son public. Et donc c'est ça qui a fait qu'après, bon, elle s'est rendue compte elle-même de ce talent, qu'elle a voulu s'inscrire au théâtre. Et puis du jour au lendemain, elle dit « Je serai célèbre, mais ce ne sera pas à cause du théâtre. » Et à partir de ce moment-là, elle s'applique vraiment à l'école. Et elle commence à étudier. Et elle dit qu'elle veut devenir ingénieure. Et donc, son père dirige sa fille vers un institut technique.
Une fille de 13 ans qui déclare « je veux être ingénieure », on est quand même à la fin du 19e siècle. Je pense qu'elle ne se posait pas de limite. Quelqu'un a dit qu'elle était comme un navire de guerre, on ne pouvait pas l'arrêter, et je pense que ça vient de là. Si c'est vrai que dans les premières années de la vie de l'enfant, on se construit, elle a été très bien construite, je dirais, cette gamine.
Et lei stessa racconta ad una sua allieva, che a sua volta lo scrive in un testo,
elle raconte à une de ses élèves, qui à son tour l'écrit dans un texte, comment elle fut particulièrement marquée par la rencontre d'une femme qui, sur un trottoir de Rome, demandait l'aumône. Elle avait à ses côtés un petit enfant qui tenait entre les mains une bande de papier rouge avec laquelle il jouait. Il touchait cette bande, la faisait passer entre les doigts.
La allieva Maria Maccheroni racconta.
Et l'élève, Maria Maccheroni, raconte que Maria Montessori fut marquée très fortement par cette scène de pauvreté, de misère, mais également par l'attention de cet enfant à l'égard de cet objet qu'il a entre les mains. Elle est marquée par cette scène jusqu'à en être influencée dans son choix d'études universitaires, sur l'option d'une faculté, celle de médecine, qui lui aurait permis de se rendre utile dans le but d'une régénération non seulement physique, mais aussi morale de l'être humain.
Per una rigenerazione non solo fisica ma anche morale dell'uomo.
Je pense que ce qui m'a plu et ce qui me maintient encore aujourd'hui chez Maria Montessori, c'est de penser cette femme dans la vision qu'elle a eue d'elle-même.
Léa Todorov, réalisatrice.
Je crois que c'est quelque chose que je trouve très étonnant et très puissant, de se dire que finalement, très jeune et dès petite fille, elle s'est projetée dans le rôle qu'elle a progressivement construit. Et on sent qu'elle a eu un plan, et je pense qu'il y avait une relation très forte aussi avec sa mère, que sa colère et sa place dans le monde devaient être quand même habitées par celle de sa mère, qui avait été une femme aussi très lettrée, très éduquée, et qui pour le coup s'était retrouvée complètement réduite à ce rôle de mère au foyer, d'un homme en plus un peu militaire, enfin voilà. Et il y avait, je pense, chez elle, la volonté que sa fille ne reproduise pas son destin et qui a dû nourrir les ambitions de la petite Maria, la jeune Maria. Je trouve toujours incroyable sa manière de se comparer au Christ. Et ça, dès qu'elle l'a comme adolescente, enfin, ce qui est d'ailleurs logique que ça soit presque encore dans l'adolescence qu'elle puisse être prise dans cette comparaison, mais j'ai pas l'impression qu'elle a complètement lâché. Elle s'identifie à une personne capable de transformer le monde comme le Christ, un peu. Et toutes les difficultés qu'elle endure, elle voit la lumière, quoi. Il y a quelque chose comme ça d'assez impressionnant dans ce type de personnalité.
Elle avait une force de caractère, et puis quand elle était convaincue de quelque chose, je pense qu'elle donnait tout. Et en fait, elle le dira plus tard, elle est convaincue que chacun de nous a une mission. Pour elle, pouvoir étudier la médecine, ça signifie connaître l'homme et pouvoir aider les plus faibles. Mais il y a ce problème que vu qu'elle a fréquenté une école technique, elle n'a pas étudié latin et grec, ce qui était requis pour pouvoir accéder à la médecine. Donc on lui fait comprendre que ce n'est pas possible, qu'elle n'a pas les titres requis, et donc elle demande quand même à être reçu par Guido Baccelli, qui à l'époque était le ministre de l'Éducation, et qui lui fait comprendre que ce n'est pas possible. Et elle aurait dit, en quittant le bureau, « Excellence, un jour je serai médecin ». Donc elle trouve ce subterfuge de s'inscrire d'abord à la faculté de sciences naturelles, en espérant pouvoir bifurquer et être admise en médecine.
Et quindi si iscrive al corso di laurea in scienze naturali.
Elle s'inscrit donc en licence de sciences naturelles qu'elle fréquente pendant deux ans. Elle ne passera pas le diplôme et ne suit que les deux premières années.
Et quindi cosa studia in questi due anni?
Qu'étudie-t-elle pendant ces deux ans? Car ces deux années d'études sont fondamentales.
Zoologia.
Elle étudie la botanique, la zoologie, la physique expérimentale en première année et ensuite, elle étudie l'histologie et la physiologie générale, l'anatomie comparée et la chimie générale et organique. Que fait le naturaliste? Le naturaliste observe l'objet d'étude dans son propre environnement. Donc, organismes vivants et environnement font partie d'une même unité. La relation organisme vivant-environnement est fondamentale pour Montessori.
Après les sciences naturelles, elle est finalement admise en médecine. Alors il y a toutes des légendes, et moi je pense qu'elle a contribué à fabriquer un peu ces légendes, non, donc elle, que le pape se serait interposé pour qu'elle puisse s'inscrire en médecine. Mais en fait, c'est, dans le contexte historique de l'époque, ce n'est pas du tout vraisemblable, parce que c'était les francs-maçons et les libéraux qui étaient au pouvoir. Le pape était prisonnier dans le Vatican. Enfin, ce n'est pas du tout vraisemblable.
Per quello che riguarda la scelta di studiare medicina...
Valeria Paola Babini, historienne.
Non, per quanto riguarda Maria
Montessori, par rapport à son choix d'étudier la médecine, nous ne pouvons que faire des hypothèses. La plus plausible est qu'elle était fascinée par le grand espoir de sauver l'humanité qui animait la médecine en fin de siècle. La médecine avait connu un grand développement scientifique dans ces années-là et elle avait conquis la population, surtout grâce à la croissance des branches médicales comme l'hygiène, l'anthropologie, la psychiatrie. C'était une médecine sociale, une médecine attentive et convaincue qu'elle peut résoudre les problèmes de santé, mais aussi les maladies liées à la pauvreté, au paupérisme et à la misère.
Qu'est-ce que c'est ce bâtiment, Martine Gilsoul?
Donc ici, nous sommes devant l'Institut d'anatomie. L'Université de la Sapienza a construit toutes les facultés de médecine le long de cette longue avenue qui était en dehors du centre de Rome. Et dans la promotion de Maria Montessori, elle était la seule femme à Rome à fréquenter la faculté de médecine à ce moment-là.
Et lorsqu'elle arrivait dans les amphithéâtres de médecine, elle se faisait siffler par les garçons.
Patricia Spinelli, fondatrice de l'Institut supérieur Maria Montessori.
Elle la regardait droit dans les yeux, elle leur disait « Soufflez, messieurs, soufflez. Plus vous soufflerez, plus j'irai loin. »
Elle excellait en médecine. Enfin, ses résultats sont quand même assez excellents.
La leçon d'anatomie de Maria Montessori, c'est son baptême de feu, c'est sa descente dans l'arène.
Lundi 4 mai 1891, semaine inoubliable. J'entrais à l'école d'anatomie et je vis un cadavre recouvert. C'était un corps minuscule. Après la leçon, le docteur Mingazzini donna les explications sur le cadavre. Il retira le drap jusqu'à la taille. Je vis une poitrine trop développée pour être celle d'un homme. « C'est une jeune fille, » dit-il. « Moi aussi. » J'étais une jeune fille. Tous me regardaient, et sous ces regards, devant cette innocente malheureuse à moitié nue, je ressentis de fortes émotions.
La première fois qu'elle voit le prof qui découvre un cadavre, c'est une jeune fille, et un de ses copains touche les seins de cette fille morte, elle s'enfuit de la classe. C'est insoutenable pour elle de regarder un corps nu de femme devant ses amis, qui évidemment font des blagues, probablement salaces. Elle s'enfuit, en fait, elle a une espèce de crise. Elle se demande, est-ce que je vais réussir à passer des années à faire ces études-là?
Je crois que je n'ai pas trop rougi. La jeune était petite, mais jolie, et son tronc très mignon. Un étudiant se mit à parler de cette poitrine si belle. Personne ne défendait cette malheureuse. Avec des pinces, le docteur soulevait les veines d'un bras cassé où l'os était à nu. Je m'en allais. Je ne supportais pas la vue de ce sein qu'on touchait.
Et en fait, elle revient, elle parle avec le professeur et ça nous montre aussi que le professeur était quand même très gentil. Et il lui fait la leçon tout seul. Et elle raconte, elle a aussi un cahier, qui à un certain moment, lui, il apprend par la taille. Et elle se dit quand même, je suis renfermée dans une pièce avec un professeur, demain toute la faculté va parler de ça. Tout au long de ses études, elle est dans cette situation. Je veux y aller, mais je sais que je suis toujours à la limite de ce qui est socialement accepté.
Grâce à ce professeur qui l'accompagne, ben voilà, elle plonge, on va dire, sa main dans le gras du brin. Et donc là, petit à petit, le professeur va vraiment l'aider à dépasser sa peur. Et après, donc, quand ils ont terminé, ils se lavent les mains. Et puis elle dit, après combien de temps est-ce qu'on peut manger après avoir vécu une expérience comme ça? Et le professeur lui dit, tout de suite. Et donc il emmène une des personnes qui travaillait là acheter des pâtisseries. Et en fait, elle prend cette pâtisserie et le professeur l'encourage vraiment. Et elle dit, cette main qui, il y a quelques minutes, touchait un cadavre, maintenant mange une pâtisserie. Et donc elle dit, je suis sortie de là, quelque chose en moi était changé.
Ce qui est touchant, c'est qu'en fait, on voit qu'on a ce navire de guerre, cette fille très sûre d'elle, mais en même temps, c'est une jeune fille de 18, 20 ans qui rêve de l'amour, évidemment. Imaginez à l'époque, l'horizon d'une femme, c'était le mariage et l'amour. Et puis, il y a eu, sans doute, parce qu'elle en parle, un amour pendant l'université. Ricardo, c'est très touchant ce qu'elle écrit, parce que c'est un autre étudiant de médecine, comme elle, qui partage son idéal. Et il y a vraiment un passage de son cahier où elle dit « Je l'aime, mais je ne peux pas me marier, je dois... » Parce qu'elle sait très bien que c'est un choix. Ce n'est pas comme aujourd'hui qu'on fait tout. À l'époque, se marier, ça signifiait ne pas travailler. Et elle se dit vraiment « Je ne peux pas lui dire. » Elle le laisse partir pour Milan sans lui dire qu'elle l'aime. Et c'est très déchirant. Ça nous donne aussi l'idée de ce qu'elle a dû surmonter, les sacrifices qu'elle a dû faire, les choses à laquelle elle a renoncé, c'est sûr. C'est quand même une personne qui est déjà... 18-20 ans, elle s'est dit, si je veux arriver où je rêve d'arriver, il faut que je me concentre sur ça. Et elle dit dans un passage, ça ou mourir, ou la mort. Tout son milieu, j'imagine, elle a considéré un peu une extravagante. Faire des études, ça veut dire ne plus perdre sa capacité, devenir stérile. Il y a aussi des médecins qui disent les femmes qui étudient trop deviennent nerveuses et son utérus ne peut pas avoir des enfants. On lit des choses qu'aujourd'hui, vraiment, on rit, mais voilà. Il y a plein de médecins qui écrivent sur ça, devenir des valkyries, des femmes hommes, des femmes hystériques. C'est une femme dragon qui fait peur aux hommes, qui déplaît aux femmes aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, la solidarité féminine n'est pas du passé, c'est sûr. Tu as une fille perdue, tu as une fille scandaleuse, d'où le fait qu'en fait, elle fera un scandale. Je pense qu'il faut quand même du courage pour se mettre là. Surtout quand, comme Maria Montessori, on ne fait pas ça pour l'argent. Elle n'a jamais dit « je veux devenir le docteur de la noblesse de Rome ». Elle fait ça parce qu'elle a un idéal social.
Parce que Maria Montessori, dès le début de ses études de médecine, ça m'a beaucoup frappée, est tout de suite en contact avec les professeurs, surtout Moleskott. Ces professeurs, Moleskott, Angelo Celli, qui ont une idée de la médecine comme une vocation pour soutenir et pour aider les plus faibles, et donc vraiment la médecine pour contribuer à l'amélioration de la société. Pour elle, la médecine, ce n'est pas les petits cénacles où on parle de théorie entre soi, non. Et donc, dès le début de ses études en médecine, elle fait du bénévolat dans un dispensaire qui soignait gratuitement les enfants. Donc là, elle se rend compte de la misère, en fait. La misère dans laquelle vivent de nombreuses familles à Rome.
Elle va aller dans les foyers des différentes personnes, elle va aller chez les malades, et souvent, elle va se rendre compte qu'il faut travailler de façon générale sur l'environnement. Que les gens vivent dans des bidonvilles, dans des logements insalubres, qu'ils ne savent pas cuisiner.
Adrien Roche, formateur à l'Institut supérieur Maria Montessori.
Donc, elle va avoir un regard qui est plus global sur la situation de ses patients et qui ne se contente pas de traiter uniquement les maux du corps. Et c'est là qu'elle va commencer à avoir une véritable pensée sociale, à se dire qu'en fait, ça ne sert absolument à rien d'essayer de mettre des rustines sur tous les maux qui sont causés par la pauvreté et les conditions de vie terribles dans lesquelles sont ces gens, et de se dire comment améliorer la société par rapport à ça.
Vu qu'elle était quand même assez douée avec ses publications, Je pense qu'elle a gagné un concours où elle a pu être assistante à l'hôpital Santo Spirito, qui était lié à l'Université La Sapienza. Et en fait, en fréquentant ses professeurs, il y a un professeur, Clodomiro Bonfigli, qui montre vraiment que les théories déterministes ne sont plus d'actualité. Et il montre combien l'impact de l'environnement, de l'éducation est important. Et c'est ça qui va pousser Maria Montessori à choisir la psychiatrie. Et c'était vraiment aller à contre-courant. Les quelques femmes médecins à l'époque, elles étaient ou gynécologues ou pédiatres. Et Maria Montessori choisit la psychiatrie.
Allora, lo stato della psichiatria in quel tempo d'Italia è in un momento estremamente ricco di ricerche e di studi.
L'état de la psychiatrie à cette période en Italie est extrêmement riche en termes de recherche et d'études. Montessori obtient son diplôme avec le professeur Ezio Chiamanna. Ezio Chiamanna avait étudié à Paris avec Charcot. Et avec lui, il étudie aussi Freud. Quand Montessori fréquente la clinique psychiatrique de l'université à Rome, il y a aussi un autre jeune chercheur, Sante de Sanctis, qui sera par la suite cité dans l'interprétation des rêves de Freud. On parle donc d'un contexte scientifique extrêmement riche, stimulant, ouvert aux apports internationaux. Un contexte qui ne pouvait qu'intéresser la jeune Montessori. La thèse de Montessori a pour sujet les hallucinations. Et ce sujet avait été étudié par De Sanctis dans certaines de ses contributions. C'est probablement Sante De Sanctis qui l'a suivi dans la rédaction de sa thèse. Sante De Sanctis est un des pères de la psychologie naissante en Italie, un des piliers. Il aura une correspondance épistolaire avec Freud. C'est aussi Sante De Sanctis qui s'occupera de l'éducation des enfants qui ont un retard mental, les enfants souffrant de phrénasthénie, c'est-à-dire affectés d'une faiblesse des fonctions cérébrales. Défini aussi comme idiot ou demeuré.
Delle funzioni cerebrali definiti anche idioti o deficienti.
Allucinazioni. Il malato percepisce come reale ciò che è immaginario. Allucinazioni antagonistiche. Hanno l'una un contenuto totalmente opposto all'altra.
Elle soutient sa thèse qui est intitulée « Contribution clinique à l'étude des hallucinations à contenu antagoniste ». Donc c'est quand les patients avaient des hallucinations auditives et visuelles.
Son père ne voulait pas y aller parce qu'elle parlait devant tout le public. C'était quand même, voilà, encore scandaleux qu'une femme parle dans une salle. Et en fait, il se laisse convaincre par un ami, il y va, et après il raconte que, voilà, que tout le monde se félicite avec lui. Il est surpris, agréablement surpris par le fait que le public est enthousiaste de la leçon, disons, de thèse de Maria, qui est une leçon sur la psychiatrie.
Les donne che conseguono una laurea.
Les femmes qui obtiennent un diplôme universitaire en Italie dans la période qui va des années 1877 environ à 1900 sont au nombre de 250 à peu près.
Et sono donne che rompono un tabù, che era
quello. Ce sont des femmes qui brisent un tabou. Celui des capacités intellectuelles féminines. Il y avait un préjugé social à l'égard des femmes quant à leur capacité intellectuelle. En vertu de leur nature, elles sont prédisposées à prendre soin des autres. Cela soustrait peut-être de l'énergie à leur capacité intellectuelle.
Berlin, 20 septembre. Le Congrès international des femmes s'est ouvert aujourd'hui à l'Hôtel de Ville. Plus de 500 femmes de différentes nationalités, en particulier d'Italie, d'Autriche, de France et d'Angleterre, y ont participé. Parmi les rapports présentés par les dames des différents pays, celui de Mademoiselle Docteur Montessori de Rome porte sur les activités de l'Association des femmes de Rome et sur la participation progressive et continue des femmes aux études italiennes. Demain, le congrès traitera des jardins d'enfants et des écoles maternelles.
L'anno della laurea in medicina della Montessori
L'année même de son diplôme de médecine, une association de femmes a été fondée à Rome. Les buts de l'association étaient d'encourager l'esprit de solidarité et de fraternité chez les femmes. Outre Montessori, l'association comptait parmi ses membres des femmes de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie qui s'occupaient de la santé des femmes et des enfants. Les femmes de cette association avaient décidé d'envoyer Montessori au congrès des femmes de Berlin comme déléguées. Et pour couvrir les dépenses du voyage, elles avaient organisé une souscription publique dans presque toutes les régions d'Italie. Maria Montessori a été immédiatement considérée comme la représentante la plus appropriée et surtout scientifiquement la plus compétente pour faire avancer les objectifs de l'association. Plus précisément, une nouvelle femme qui a fait de la science son drapeau.
Per quanto riguarda il congresso di Berlino,
lors de ce congrès de Berlin, ont été abordées la situation juridique des femmes dans différents pays et le droit d'être élue. Et des informations ont été données sur ce qui se faisait dans les différents pays. Dans le climat internationaliste interclassiste du congrès, Montessori présente deux rapports. Dans le premier, elle parle de l'éducation des femmes en Italie et des activités des différentes associations féministes pour vaincre l'analphabétisme généralisé. Dans le deuxième rapport, elle aborde les problèmes des femmes qui travaillent en Italie et elle demande que dans tous les pays, les femmes reçoivent le même salaire que les hommes. Dans les journaux et les magazines, pas seulement italiens, on parle beaucoup d'elle, de sa beauté, de son talent oratoire, de son fort caractère et de sa foi dans le progrès social.
Et c'est sûr que le fait que les féministes italiennes envoient Maria Montessori, ça nous dit combien, même si elle était encore une jeune médecin, elle venait de faire ses études, elle était déjà très connue dans le milieu de Rome. Pourquoi elle était connue? Parce qu'elle était charismatique, elle était belle, elle avait un très beau visage, elle était très fine, très petite. Elle était vraiment un petit bout de femme, toute nerveuse, avec beaucoup de cheveux bouclés, noirs. Il y a quelques photos de l'époque, les yeux très noirs, très vif. Je pense que c'était pas seulement être une belle fille, elle était une fille qui ne passait pas inaperçue.
Et surtout, Maria Montessori, c'est une féministe qui parle au nom de toutes les femmes. Même les femmes qui n'avaient pas voix au chapitre, non? Donc les prostituées, les femmes analphabètes. Et donc elle va vraiment essayer de défendre toutes les femmes et aussi de pointer du doigt un peu l'hypocrisie des hommes.
Sa prise de parole au Congrès des femmes de Berlin, c'est très concret. Elle parle vraiment de la discrimination terrible que vivent les institutrices en Italie. Elle donne les grilles de salaire et on voit vraiment, voilà, le salaire masculin, le salaire féminin. Enfin, c'est extrêmement documenté et précis. Elle n'est pas du tout dans des grands discours. Elle affirme et elle montre les discriminations et la nécessité qu'il y a de revaloriser ces personnes qui se consacrent à l'éducation des enfants, ce qu'elle considère être une mission essentielle de la société et en particulier pour les femmes, puisqu'elles sont au cœur de la vie, enfin voilà, des enfants et donc ensuite de toute la société. Donc il y a vraiment pour elle une nécessité énorme à éduquer toutes les femmes.
Contemporaneamente, dopo la laurea, Montessori.
Au même moment, après son diplôme, Montessori commence aussi à travailler dans la clinique psychiatrique dirigée justement par le professeur auprès duquel elle avait fait sa thèse, Ezio Ciamana. Elle commence à travailler dans une clinique psychiatrique en s'occupant de la question des enfants avec un retard mental. Les deux domaines, question des enfants avec un retard mental et question des femmes, avancent ensemble.
Ce que je trouvais génial, c'était que là, évidemment, c'est une convergence des luttes. On dirait, avec notre vocabulaire d'aujourd'hui, de se dire, en fait, les femmes subissent des discriminations, mais ces enfants en subissent aussi des discriminations terribles. Et je trouve que c'est passionnant ce que ça a fait résonner avec notre époque, où on parle de manière beaucoup plus puissante que dans ma jeunesse des discriminations sur les femmes. Et on parle toujours pas des discriminations, ou très peu, sur les personnes en situation de handicap. Donc, je trouve que c'est passionnant qu'elle, à l'époque, elle ait senti qu'il y avait un lien entre ces deux luttes et que,
En fait, la manière dont on se comporte encore aujourd'hui avec des personnes en situation de handicap, c'est une position paternaliste de sachant qui écrase et qui, évidemment, par des mécanismes qu'on connaît maintenant aujourd'hui très bien, renforce la dépendance et le sentiment d'incapacité chez les personnes concernées. Donc cette nécessité de relier les luttes, je trouve magnifique qu'elle ait compris ça en 1900.
Dans les asiles psychiatriques, elle se rend compte que les enfants sont enfermés avec les adultes. Que les adultes sont enfermés ensemble, quelle que soit leur pathologie. Et donc elle se rend compte que pour ces enfants, c'est la mort. Parce qu'on ne va pas pouvoir les soigner. Et alors, ça c'est Anna Maria Maccheroni qui écrit que Maria Montessori aurait raconté que quand elle était là pour observer les enfants, la dame qui s'occupait des enfants a dit à Maria Montessori, vraiment avec un ton méprisant, en montrant les enfants, dès qu'ils ont fini de manger, ils se jettent sur les miettes.
Elle était là un jour à la clinique, et puis c'était la fin du repas, je crois, et puis il y avait un petit enfant qui était par terre, et qui commençait à ramasser les miettes de pain qui restaient, et puis qui commençait à les manipuler. Et la dame de service qui était là lui dit, vous avez vu, ils sont comme des animaux, ils ramassent les miettes par terre pour les manger. Mais Maria Montessori a vu tout autre chose, parce qu'il n'était pas en train de les manger, les miettes. Il était en train de les manipuler. Et c'est là où elle a eu cette fulgurance et cette première attention de se dire, les enfants, ils ont besoin d'avoir des objets dans les mains. Ils ont besoin de manipuler quelque chose. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à apporter des jouets. Et elle a vu les enfants se transformer. Évidemment, vous enfermez des enfants dans une pièce, malades mentaux ou non, qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent. Ça dégénère très vite. Vous leur donnez des objets, ils s'organisent. Et c'est ce qu'elle va déclarer dans sa conférence en 98, 4 ans plus tard, au Congrès pédagogique de Turin, où elle va dire « Les enfants malades mentaux ne sont pas dehors la loi. Ils ont droit à tous les bienfaits de l'instruction. Nous devons rendre à ces malheureux leur dignité d'être humain. » C'est-à-dire qu'elle met la société en face de ses responsabilités. Donc son premier travail, et elle va l'obtenir du directeur de la clinique, c'est qu'on sépare les enfants des adultes. Et je pense qu'on peut dire qu'elle a créé finalement en Italie le premier service de pédopsychiatrie. Et du coup, il va lui demander de s'occuper des enfants. Et c'est là où elle commence ses observations. Et elle ajoute, la thérapeutique, elle est peut-être plus pédagogique que médicale.
Et ça, je pense que c'est une des premières en Italie à avoir compris ça. Et c'est pour ça qu'elle va participer en 1898 au premier congrès national des enseignants à Turin. Et elle le dit, j'étais vraiment une intruse. Parce que personne encore n'avait compris que la médecine pouvait aider l'éducation.
Du 8 au 15 septembre 1898, le premier congrès pédagogique italien était organisé à Turin. Environ 3000 éducateurs étaient inscrits. Je participais au congrès, habité par une passion nouvelle qui me laissait entrevoir la mission et la transformation d'une classe sociale élue, la classe des éducateurs, en route vers sa rédemption glorieuse. J'y étais une intruse, parce que personne parmi eux ne soupçonnait encore la possibilité d'une collaboration positive entre la médecine et la pédagogie.
À Turin, pendant le congrès, en fait, il y a l'impératrice Sissi qui est assassinée par un Italien. Et c'est la troisième fois en peu de temps que c'est un Italien qui tue un homme politique, ou dans ce cas-ci, une impératrice. Et donc la presse, puisqu'il faut trouver un bouc émissaire, la presse critique les enseignants italiens qui n'ont pas été capables de s'occuper de ses élèves, de ses enfants. Parce qu'il y a un taux de déscolarisation très important, et ce sont tous ces enfants qui se retrouvent dans la rue, et donc qui sont les futurs délinquants. Et donc elle dit, voilà, c'est ça la mission de l'école. On peut dire que Maria Montessori est une des premières à vraiment vouloir que l'école s'occupe de tous les enfants, même des enfants en difficulté, avec des pathologies. Et donc elle se rend compte qu'il faut penser différemment. Elle a entendu parler du travail des médecins pédagogues, qui donc en France avaient déjà travaillé. Donc elle entend parler de Jean-Gaspard Itard et d'Édouard Seguin. Jean-Gaspard Itard était très connu parce que donc il avait travaillé avec le fameux Victor de l'Aveyron,
l'enfant sauvage.
Et Seguin est un disciple en fait de Itard qui a repris en fait cette méthode physiologique. Donc ils avaient compris l'importance de partir des sens pour arriver à l'intellect. Et donc Maria Montessori va à Paris, à la Salpêtrière, où c'était Désiré Magloire Bourneville qui était là comme directeur. Elle pensait trouver à Paris ses livres. Elle se rend compte qu'ils sont très difficiles à trouver. Elle trouve par contre celui d'Itard. Et donc elle fait venir le livre, le deuxième livre de Séguin des États-Unis, qu'elle va traduire en fait de l'anglais.
Elle va recopier ce livre de Séguin en le calligraphiant. C'est qu'en le calligraphiant, et le livre de Séguin, c'est 300 pages, hein, c'est pas le rapport de 50 pages d'Itard. Et elle écrit dans la première pédagogie scientifique, elle écrit qu'elle le recopie en le calligraphiant pour prendre le temps de s'inspirer, de comprendre la pensée de l'auteur et de penser à partir de ce que lui a pu penser.
Alors c'est clair que sa formation de médecin, je pense que c'est un peu la clé. On la présente toujours comme une pédagogue. Et elle, à plusieurs reprises, elle écrit « Je n'étais pas et je ne suis pas une pédagogue. Je suis une femme de science, je suis une scientifique. » Et c'est clair que je pense qu'elle a vraiment été formée. C'est grâce à Santé de Santis qu'elle a vraiment appris à observer les enfants et à pouvoir décodifier en fait les symptômes. Puis il y a peut-être aussi quelque chose de génial, enfin une intuition en fait. Elle se rend compte de l'importance pour les enfants, surtout pour les petits, d'utiliser les mains. Et donc elle dira, non, la main est l'organo de la mente. Donc la main est l'organe de l'intelligence. Et en fait, son idée, et c'est pour ça qu'elle va créer, en fait, au retour de Paris, elle comprend qu'il faut utiliser, elle parlera d'une autre voix, V-O-I-E, pour éduquer ses enfants. Et là, c'est aussi de nouveau pour, vraiment, je pense, dans un objectif social, en fait. Et donc, son idée, c'est de former les enseignants qui vont pouvoir aider ces enfants à se développer avec leurs difficultés, avec leurs pathologies, avec leurs retards. Donc, elle va créer avec trois professeurs, mais on dit que c'est vraiment elle, l'âme. Elle crée la Ligue nationale pour la protection des enfants déficients. Donc, on est en 1899.
À la fin du 19e siècle, Maria Montessori donnera des conférences dans les villes principales d'Italie pour expliquer à la population, majoritairement féminine, l'importance de la Ligue pour l'éducation et le soin des enfants déficients. La Ligue avait été créée depuis peu par le psychiatre Bonfigli, ex-directeur de l'hôpital psychiatrique de Rome. Il était à ce moment-là député au Parlement et il pouvait donc défendre la cause de la rééducation des jeunes déficients qu'il se proposait de prendre en charge dans des instituts spécialisés appelés instituts médico-pédagogiques. Maria Montessori, avec son collègue Montesano, en fut, pour ainsi dire, l'âme. Pour diffuser le projet de la Ligue, elle a décidé de faire une série de conférences dans les villes italiennes principales pour informer les maires des effets de ce qui était considéré comme le mal du siècle, la dégénérescence, terme qui avait été introduit par le français Morel et qui aurait été l'une des causes du handicap psychomoteur des enfants idiots et déficients. Maria Montessori entrevoit tout de suite le rôle que les femmes peuvent jouer dans la bataille contre ce qu'on appelait à l'époque la dégénérescence de la race. En tant que médecin et scientifique, Maria Montessori parle de l'enfance dégénérée, des causes du déficit mental des handicapés, mais c'est la féministe qui voit dans les femmes mères les meilleurs alliés contre le fléau de la dégénérescence.
J'affirme qu'elle sera principalement une femme consciente. Elle sera avant tout une mère qui puise la force de son émancipation dans la maternité. Parce que la maternité est précisément aujourd'hui l'aspect le plus défavorisé. Lorsque toutes les modalités d'une génération saine seront reconnues, lorsque tous les devoirs de l'hygiène infantile seront connus, la femme parlera alors au nom de ses enfants et l'homme devra lui obéir.
En exhortant les femmes à éviter la procréation avec un partenaire porteur d'une hérédité pathologique pouvant nuire à la future progéniture, elle voulait, outre le fait d'asséner une vérité scientifique, dire implicitement aux femmes qu'elles devaient choisir avec qui s'unir sexuellement. Elle les invitait à se rapprocher de la science, non seulement pour ses résultats et ses recherches, mais aussi pour son cadre rationnel qui pouvait les guider dans leur choix de vie, y compris les plus intimes. Au cours d'une de ces conférences, la jeune Montessori utilise une expression qui, à mon avis, est extraordinairement efficace et fortement symbolique. Elle dit « Moi, je voudrais faire en sorte que les femmes tombent amoureuses de la science positiviste. » Maria Montessori ne faisait pas de la poésie, bien sûr. Cette phrase voulait simplement dire que la science allait rendre les femmes maîtresses d'elles-mêmes et qu'elles n'auraient plus à dépendre dans leur prise de décision de leur mari ou du prêtre.
Grâce à ces conférences, elle rassemble des fonds. Et donc, cette ligue va aussi donner naissance à l'école magistrale d'orthophrénie. Et cette école, c'est un peu la création de Maria Montessori et de Giuseppe Montesano.
Giuseppe Montesano, c'est un jeune psychiatre qu'elle rencontre pendant ses spécialités, qui est déjà médecin, mais très jeune comme elle. Et Giuseppe Montesano, c'est un de ces jeunes psychiatres qui veulent changer la psychiatrie, en fait, parce qu'à l'époque, les îles des fous, c'était une espèce de prison gérée par l'Église et la folie était considérée un, disons, une condamnation de Dieu, non? Tu étais fou parce que tu étais pécheur. Et elle rencontre Giuseppe, qui est très beau. Il faut dire que ces photos de l'époque, très, avec un visage très fin, très haut, très élégant, très engagé comme elle. C'est sûr que c'est quelqu'un qui voulait faire de la médecine parce qu'il croyait changer le monde lui aussi. Elle tombe pour lui, elle l'aime, il s'aime et c'est caché. Parce qu'évidemment, le sexe hors du mariage, c'était inouï à l'époque. C'était vraiment impossible. C'était le scandale absolu.
Quelquefois, Montessori se mettait à douter. Et alors, Montesano l'encourageait. Allez, vas-y, continue de chercher. Il existait entre eux un rapport de soutien et de stimulation dans cette recherche nouvelle qu'ils effectuaient. Car en effet, ils faisaient partie d'un groupe de jeunes chercheurs, Maria Montessori, Giuseppe Montesano, Sante de Sanctis, dirigés par Ezio Chiamana, dans un domaine de recherche inédit.
Deux années durant, je préparais ainsi, avec l'aide de collègues, les maîtres destinés à observer et à éduquer des enfants arriérés. En outre, ce qui est plus important, après avoir été à Londres et à Paris étudier l'éducation des déficients, j'enseignais moi-même et je dirigeais les institutrices d'arriérés de notre institut. J'étais présente bien plus qu'une maîtresse élémentaire. J'enseignais directement aux enfants, de 8h du matin à 7h du soir. Ce sont ces deux années de pratique qui constituent mon premier et véritable titre en matière de pédagogie.
Maria Montessori tombe enceinte, elle cache sa grossesse et donc elle n'était pas mariée. Si une femme se mariait à l'époque, elle ne pouvait pas travailler. Et donc c'est vraiment de commun accord qu'ils ont décidé de ne pas se marier.
Mario naît en 1898. Et se marier, ça signifie devenir au mieux l'assistante de son mari, disons. Elle peut pas. Et je pense que c'est, bon, on le présente comme la grande tragédie de sa vie, mais je pense que on n'exagère pas. C'est la grande tragédie de sa vie parce qu'elle doit choisir entre son amour et son enfant et sa mission.
Donc, ils décident, d'un commun accord, de confier leur enfant à une famille un peu en dehors de Rome, à Vicovaro, qui est à 40 km au nord de Rome. Donc, Maria accouche dans le secret. Et Mario sera enregistré à l'état civil comme Mario Pipilli, né de parents inconnus. Ça nous semble difficilement compréhensible, surtout de quelqu'un qui a tellement insisté sur l'importance des premières années. Donc c'est clair qu'elle devait savoir la souffrance de son fils.
Alors, qui connaît la piume?
Pour cette école, il y a une cinquantaine d'enfants qui ont été retirés de l'asile psychiatrique et qui vont fréquenter comme ce qu'on appelle l'école d'application. Non, parce que donc il y avait toute la formation théorique pour les enseignants et puis ils devaient pouvoir observer les enfants qui manipulaient le matériel d'Itard et de Seguin qui va être dans cette école, qui va être revue par Maria Montessori. Et c'est pour ça qu'elle insiste beaucoup sur le fait que c'est une démarche scientifique, parce qu'elle va vraiment observer les réactions des enfants.
À la fin de l'Ottocento,
À la fin du XIXe siècle, les instruments dont pouvait disposer un médecin étaient peu nombreux. L'important, c'était de savoir observer et savoir écouter. Par exemple, la palpation était tout aussi importante, et encore une fois, ce qui prime pour le médecin, c'est le développement des sens, le développement de l'éducation sensorielle. Là où il y a une déficience de caractère cognitif, les sens deviennent fondamentaux. L'éducation scientifique des sens devient fondamentale pour favoriser l'apprentissage et le développement intellectuel de ces enfants. Donc, continuité, réciprocité entre le mental et les sens. Comment le comprend-elle? Par l'expérimentation et par la lecture de Itard et de Seguin.
Les bains développent la sensibilité de la peau, tonifient les tissus musculaires. L'alternance de bains chauds et froids sont un moyen puissant pour attirer l'attention de l'enfant. Ainsi, nous les préparons à recevoir l'éducation.
Elle se rend compte que l'éducation à l'hygiène, c'est un aspect curatif pour ces enfants et que ça peut vraiment réveiller leur sensibilité. Donc ça leur permet après de recevoir l'éducation intellectuelle. Puis elle observe. Et donc le soir, Maria Montessori, je pense que ça c'est vraiment un fil rouge de sa vie, c'est une chercheuse. Je pense qu'à aucun moment de sa vie, elle ne s'est dit « c'est bon, j'ai compris ». Mais jusqu'à la fin, elle va chercher toujours d'améliorer, de mieux répondre aux besoins des enfants.
Quand elle raconte son moment avec les enfants dans l'institut orthophrénique,
Léa Todorov, réalisatrice.
Elle raconte l'amour qu'elle avait pour eux et la nécessité de l'amour comme objet, comme ingrédient secret de la pédagogie, qui est une phrase que je reprends dans le film. Et elle dit, ça sert à rien d'avoir du matériel s'il n'y a pas en gros d'amour pour l'investir. Mais elle parle aussi de l'épuisement de sa volonté, parce que elle a besoin, pour que les enfants apprennent, de leur transmettre sa volonté.
Et là, miracle, j'emploie ce terme parce que c'est celui qui était employé à l'époque, les enfants ont appris.
Charlotte Poussin, auteure.
Ceux dont on pensait qu'il ne serait jamais possible de tirer quoi que ce soit, parce qu'ils étaient considérés comme des personnes inutiles, c'est choquant, hein, mais c'est comme ça que c'était à l'époque, elle a vu une capacité d'apprendre, une capacité d'être heureux, et elle a voulu les placer dans un environnement où ils allaient l'être. Et c'est très émouvant parce qu'elle a vu ses enfants renaître, parce qu'elle a posé sur eux un regard différent. C'était des personnes qui avaient un potentiel, c'était des personnes à part entière, et elle voulait respecter et restaurer leur dignité. Dès qu'ils se sont sentis aimés et considérés, ses enfants ont appris. Ils n'ont pas appris 2-3 babioles, ils ont eu des résultats excellents. Ils ont été évalués par des inspecteurs qui sont venus leur faire passer des tests de façon assez stressante et ils ont remarquablement passé les tests. À tel point que certains avaient des résultats meilleurs que des enfants non porteurs de handicap. Et là, Maria Montessori a eu sa vocation de pédagogue.
Allora, cominciamo con la matematica. Quanto fa 2 per 3?
Quand Mario a 3 ou 4 ans, Giuseppe fait quelque chose de très violent. Il reconnaît l'enfant devant la loi et il se marie avec une autre femme.
Il semblerait que la famille de Montesano ne voyait pas d'un bon œil sa relation avec une femme tellement à contre-courant. Et donc, ils ont insisté beaucoup pour qu'il se marie. Maria Montessori refusait de se marier. Et puis, finalement, Giuseppe Montessano a cédé à ses parents. Et donc, il annonce à Maria Montessori qu'il va se marier avec une autre femme. Et donc là, pour Maria Montessori, c'est vraiment un choc, parce qu'ils avaient fait c'était un pacte qu'ils s'étaient fait de ne jamais se marier l'un avec l'autre, mais ni avec quelqu'un d'autre. Et donc, pour elle, c'est vraiment une trahison de l'homme qu'elle aimait. Elle obtient de Montesano qu'avant de se marier, ils reconnaissent son fils, enfin leur fils. C'est ce qu'il va faire une semaine avant de se marier, donc il va donner son nom à son fils.
Et ça, c'est un double coup pour Maria, parce que d'un côté, il devient le père de l'enfant, qui jusque-là est un enfant sous ses parents, et ça met hors la loi à Maria. Elle n'a aucune possibilité de dire « c'est mon enfant ». Elle l'a pas reconnu, lui, il l'a pas reconnu comme étant l'enfant de Maria. Et en plus, il se marie avec une femme choisie par sa famille. Quelqu'un me disait dans la famille, peut-être en reconnaissant l'enfant, il voulait la mettre un peu dos au mur en disant « il faut que tu m'épouses ». Mais en tout cas, le résultat, c'est que Maria ne peut pas pardonner cette trahison. Elle le vit très mal. Elle en parlera très peu dans sa vie, mais elle, très peu de fois où elle parle de Giuseppe, elle parle de, voilà, d'un homme qu'elle a énormément aimé, mais qui l'a trahi d'une façon impardonnable. Peut-être parce qu'il l'a remis un peu à sa place, non, de femme.
Et donc elle décide de rompre toute relation et toute collaboration avec Montesano. C'est pour ça qu'elle arrête donc la Ligue, elle arrête l'école d'orthophrénie. C'est un moment très difficile dans la vie de Maria Montessori, parce qu'elle était médecin, donc on est en 1902. Elle était médecin depuis 6 ans, elle était reconnue, et là elle se retrouve... Enfin, comment faire pour vivre? Parce qu'en plus... Elle avait un tout petit salaire parce qu'elle donnait quelques cours au magistère, donc des cours d'hygiène. Donc elle dépendait encore de ses parents. Et en même temps, elle a toutes ces questions avec son travail à l'école d'orthophrénie qui l'habite.
Rome, c'est quand même une petite ville à l'époque. Ils devaient se croiser. Hein. Elle avait pris le deuil. Pour elle, lui, il est mort et il ne parle plus de lui. Et là, cette période mystique très forte, que là aussi, on ne raconte pas beaucoup. Elle pense entrer dans les ordres religieux parce qu'elle est complètement perdue. Et elle fait quelque chose de très violent, elle aussi. Elle quitte tout.
Merci à Paola Trabalzini, Martine Gilsoul, Charlotte Poussin, Bérangère Colli, Adrien Roche, Patricia Spinelli, Valeria Paola Babini, Léa Todorov et Christina De Stefano.
Il existe une plus grande douleur que de perdre l'homme aimé. C'est de devoir se convaincre qu'il est complètement différent de ce que l'on croyait. Devoir le mépriser est atroce.
Merci à l'AMI et à l'AMF et à Martine Gilsoul pour son aide si précieuse. Extrait du texte « Le citoyen oublié », déclaration de Maria Montessori, écrite en Inde en 1947. Lettre tirée du livre « Maria Montessori, une vie au service de l'enfant » de Martine Gilsoul, en collaboration avec Charlotte Poussin. Extrait du film « La nouvelle femme » de Léa Todorov. Lecture Aurélia Petit, Audrey Lauten, traduction Chahinez Razgala, lecture des traductions Olivia Bruno, Nathalie Canoui, documentaliste musical Antoine Vuillose, archivina Vincent Samuel, documentaliste Annie Signoret, stagiaire Margarita Carlone Minoya, prise de son Romain Luquiens, prise de son studio Cédric Châtelu et Manu Couturier, mixage Éric Boisset. Chargée de programme Anne-Vanessa Prévost, coordination Christine Bernard, responsable éditoriale Emmanuel Laurentin, une grande traversée de Johanna Bedeau, réalisée par Marie-Laure Ciboulet. À suivre, deuxième épisode, Les maisons des enfants.